Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir. Aujourd'hui, Trou Noir vous propose d'écouter un enregistrement que nous avons fait à l'occasion des Reclusiennes à Sainte-Foy-la-Grande, lieu de naissance d'Élisée Reclus. Élisée Reclus, grand personnage anarchiste, géographe, mais on en parlera davantage une autre fois. Là, je vous laisse écouter un débat autour de l'immigration et on se pose la question, peut-être bien que l'immigration, au lieu de coûter de l'argent, ça en rapporte, surtout à certains. Bonne écoute.
On va démarrer donc avec la question de finalement du coût inversé. Hein.
Voilà, du coût inversé, du coût de la gestion des migrations. Donc là, on va prendre une perspective assez différente maintenant. C'est une question qui nous tenait à cœur vraiment dans cette session. Elle est importante. Donc c'est une question qui est importante à aborder puisqu'on en parle peu en général quand on parle dans les médias, au niveau des politiques, quand on parle du coût de la gestion des migrations. C'est surtout du point de vue de ce que l'immigration coûte et plutôt que effectivement du coût de la surveillance aux frontières par exemple ou du coût du renvoi des migrants ou des coûts que l'État peut... De l'argent que l'État peut dépenser, justement, en termes de surveillance, notamment. Donc on parle souvent de sommes qui sont dépensées pour l'accès aux soins et aux services sociaux des migrants et des demandeurs d'asile, bafouant souvent les principes égalitaires de la République en posant dans le débat démocratique les conditions de principes discriminatoires qui voudraient que les ressortissants étrangers n'aient pas accès aux mêmes services et aux mêmes droits que les nationaux. Donc ça, c'est une question qui pose problème, effectivement, puisqu'on entend de plus en plus dans le débat public revenir ces questions sur les sommes dépensées pour l'accès aux soins des demandeurs d'asile, d'une part, mais aussi plus généralement de tous les migrants qui se trouvent présents sur notre territoire. Bon, ça, c'est un débat assez ancien, finalement, qu'on retrouve à chaque crise économique et financière, qu'on retrouvait dès la fin du 19e, dès le début du 20e siècle, surtout juste avant la Première Guerre mondiale. C'est un débat qu'on va retrouver au moment de la crise des années 30. Donc c'est un débat récurrent qui se pose à chaque fois qu'effectivement, il y a des restrictions budgétaires, le chômage, etc. Donc c'est un débat auquel on est habitué de la part des politiques de droite surtout, mais aussi à gauche. Et les partis de gauche ne font pas exception en ce qui concerne le coût financier, qui est parfois vraiment posé sans tabou, y compris sur l'ensemble de l'échiquier politique, aussi bien à droite qu'à gauche. Alors pour autant, cette question du coût de l'accueil s'oppose en tout point à une autre problématique beaucoup plus largement occultée du grand public, qui est celle de la gestion politique et économique du contrôle des migrations et des frontières. Autrement plus problématique en ce sens qu'elle pose des questions éthiques qui sont considérées comme fondamentales. Alors je fais une petite présentation un petit peu longue là aujourd'hui parce que j'avais invité d'autres personnes qui n'ont pas pu venir et qui ont mené également, tout comme les personnes qui sont présentes, qui ont mené des études très importantes. Alors certaines d'entre elles sont disponibles en librairie, mais je voulais faire une introduction un peu longue pour justement présenter ces études-là. Alors aujourd'hui, les États européens s'orientent de plus en plus vers des calculs de rentabilité aux dépens d'une approche évidemment beaucoup plus humaine des migrations. Alors je pense notamment à tous les appels d'offres qui sont développés depuis une quinzaine d'années maintenant dans le secteur de la sécurité, comme d'ailleurs de plus en plus dans le secteur social, où il s'agit de proposer, y compris en ce qui concerne l'immigration, de proposer chaque service à un prix le plus bas possible, bafouant de ce fait les droits de l'homme et le droit d'asile au profit de bénéfices d'entreprises qui sont de plus en plus, qui ont tendance de plus en plus à être contractualisées. Donc l'État contractualise ce type de service, y compris dans le secteur social. Alors les perdants, évidemment, sont en premier lieu les migrants et les demandeurs d'asile, mais également aussi les employés. Alors peut-être Sonia Pradine reviendra tout à l'heure sur cette question. Les perdants, c'est évidemment en premier lieu les migrants, mais aussi les employés des prestataires de services qui travaillent dans le champ social, qui sont tiraillés, eux, entre des logiques économiques de leur employeur et leur déontologie professionnelle. Et puis, notre type de perdant aussi, ce sont tous les volontaires ou les bénévoles associatifs qui sont désormais visés, en tout cas qui ont longtemps été visés par le délit de solidarité. Alors, on a eu récemment, là, hier, effectivement, le Conseil d'État qui a reconnu le principe de fraternité. Mais, alors, c'est une grande avancée, c'est bien, mais il faut voir, je pense que un certain nombre de militants continueront à être harcelés quand même sur le terrain. Alors, il faut remonter peut-être à la Convention de Schengen qui a été conclue en 90, où on voit émerger toutes ces questions-là autour de, petit à petit, l'émergence de la surveillance des territoires et du business qui est fait autour de cette surveillance. Donc, depuis la Convention de Schengen conclue en 90, les États ont mis en place ce qu'ils appellent des mesures compensatoires pour sécuriser, entre guillemets, je reprends les termes, officielles pour sécuriser les frontières extérieures de l'Union européenne. Alors, parmi les plus récentes de ces mesures, on voit des opérations de pushback, dites opérations de pushback de la part des gardes-côtes grecs avec l'aide de Frontex. On en parle dans La mécanique des flux de Nathalie Loubert. C'est notamment alors aussi dans les cas les plus récents avec la signature d'un accord entre l'Union européenne et la Turquie pour que la Turquie justement garde les migrants futurs demandeurs d'asile, les garde sur son territoire. On retrouve la même chose à Ceuta et Melilla qui sont les enclaves espagnoles au Maroc avec la Guardia Civile qui intervient directement là pour essayer aussi de toujours ce pushback, de repousser les migrants. On l'observe aussi avec le stockage et les échanges des données personnelles à des fins de gestion et de contrôle. C'est tous les systèmes d'information des visas, le système d'information Schengen, Eurodac, le dépôt des empreintes que vous connaissez. Les demandeurs d'asile déposent leurs empreintes et c'est ce qui va permettre après aux États de les considérer comme des Dublinés. Il y a toutes les barrières physiques aussi qui sont érigées de plus en plus, alors particulièrement depuis les années 90. Et on est passé, alors il y a des gens qui sont amusés à comptabiliser un petit peu les barrières et les murs, et on est passé de moins de 10 murs dans le monde en 1945, c'est symbolique évidemment cet après-guerre, à plus de 70 murs aujourd'hui, en 2017. 2018, c'est pas très différent. À partir des années 2000, c'est le développement d'un marché de la sécurité migratoire, vraiment, qui est défini comme celui-là. Et ça, je fais référence alors, au rapport Migre-Europe. Donc, j'avais invité Lydie Arbogast, qui est l'auteur principal de ce rapport Migre-Europe, sur la gestion des centres de rétention administrative, comme ça qu'on les appelle en France. On les appelle un peu différemment dans les autres pays européens, mais c'est la même chose. Donc ce rapport Migre-Europe qui date de 2016, qui est très important, que vous pouvez trouver sur Internet, qui est libre de téléchargement, et qui montre... Alors l'étude a été menée dans trois pays, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Donc elle montre bien, Lydie Arbogast, que ça a commencé par le Royaume-Uni, finalement, ce marché de la sécurité migratoire, et que ça continue dans les pays plutôt latins, du sud de l'Europe, finalement, l'Italie, la France, la Grèce également. Il y a l'ouvrage de Claire Rodier aussi, qui n'a pas pu venir et que vous pouvez trouver dans la librairie, qui est intitulé « Xénophobie business », qui a été publié, je crois, l'année dernière, en 2016 ou 2017, enfin, qui est récent, et qui explique justement tout ce marché de la sécurité migratoire. Il y a les travaux aussi d'Anne-Sophie Simperet, qui est journaliste à Bastamag et qui a notamment publié un article sur spéculer sur l'insertion des demandeurs d'asile en France, un nouvel investissement rentable pour les financiers. Donc il y a un certain nombre d'articles comme ça qui commencent à sortir. Violette Voldoir est journaliste aussi, je la présenterai dans deux minutes, et a contribué aussi à l'émergence de papiers très intéressants sur justement ce marché de la sécurité migratoire. Voilà, il faut vraiment aller fouiller, évidemment pas dans la presse mainstream, forcément grand public, mais en tout cas, il y a de la presse alternative qui, comme vous le savez, est très intéressante et contribue à faire ressortir ces questions-là. Alors, dernière chose peut-être que je voulais signaler, en 2003, il y a eu la création d'un groupe de travail à l'initiative de la Commission européenne, où des représentants des institutions européennes et des chercheurs aussi, plus également 8 compagnies spécialisées dans la sécurité et la défense. Alors je les cite, c'est EADS, Thales, donc Thales France, Airbus, Finmeccanica en Italie, Indra en Espagne, Siemens en Allemagne et Ericsson en Suède, qui ont participé à un groupe de travail qui a notamment abouti à un certain nombre de recommandations auprès des décideurs de l'Union européenne. Et parmi ces recommandations, celle-ci, selon laquelle il faudrait allouer un budget de plus de 1 milliard, exactement 1,3 milliard d'euros par an à la sécurité aux frontières. Donc on est vraiment dans des sommes très importantes qui profitent à ces groupes qui font partie effectivement de ce groupe de travail, puisque Thales a conduit 18 projets, hein, par exemple, Airbus a conduit 2 projets. Donc ces différentes entreprises ou compagnies qui font partie de ce groupe de travail montent elles-mêmes des projets pour la sécurité, hein, aux frontières. Alors selon le Transnational Institute, le marché de la sécurité des frontières était évalué à 15 milliards d'euros en 2015 et devrait atteindre plus de 29 milliards d'euros en 2022. Donc on voit que c'est en expansion constante, hein, ce marché-là. On voit effectivement que le mode de gestion privilégié finalement des questions migratoires aujourd'hui dans la plupart des pays de l'Union européenne, alors plus chez certains que chez d'autres, mais enfin globalement, le mode de gestion privilégié, c'est l'enfermement des migrants de plus en plus, avec la privatisation de la détention. Ça, je fais référence au rapport Migre-Europe aussi, hein, qui est vraiment focalisé sur cet aspect-là, avec de plus en plus de sociétés privées de sécurité qui contrôlent les centres de rétention administrative. Il y a un institut qui explique que les États membres de l'Union européenne auraient dépensé plus de 11 milliards d'euros pour enfermer, dans le but d'éloigner les migrants irréguliers. On a la privatisation des expulsions aussi, qui prend de plus en plus d'ampleur, avec de plus en plus, là aussi, de sociétés privées de sécurité pour escorter les expulsions. Mais aussi, on a là aussi des journalistes, plutôt de la presse dite alternative, qui ont publié un papier sur le renvoi aux frontières des migrants dans des avions d'affaires affrétés par la PAF, donc la police de l'air et des frontières. Donc c'est trois journalistes, Théo Englebert, Peter Aldous et Jules Darmanin, qui expliquent comment de plus en plus on affrète des petits avions privés. Alors, c'est pas forcément, nous, on a souvent l'image des charters, hein, qui renvoient les migrants dans leur pays d'origine, mais il y a de plus en plus d'avions privés, et ça, on ne sait peu, qui sont affrétés, donc qui sont payés par l'État, par les contribuables, pour renvoyer les gens, alors au cas par cas quasiment, hein, puisque c'est des petits avions qui contiennent 8-10 personnes souvent. Alors, au départ, l'État a utilisé ça beaucoup pour les prisonniers corses, pour les transférer. Sans faire trop de bruit. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé pour envoyer les migrants. Donc il y a ce papier qui est sorti dans BuzzFeed News il y a quelques temps, qui est très intéressant. Voilà, bon, je ne vais pas tellement continuer pour laisser quand même la parole aux intervenants, mais je pensais que ça, c'était important de le dire un petit peu en introduction pour essayer de présenter aussi les différents papiers ou les différentes études, et j'insiste vraiment sur celle de Migre-Europe, qui est très importante concernant les CRA, les centres de rétention administrative.
C'est une longue vague ample, lente, profonde, qui vient battre nos côtes et meurt sur les galets. Elle arrive de loin, entendez-la qui gronde, quelle force pourrait arrêter la marée. Entassés sur le pont, étouffant dans les cales, de vieux rafiots rouillés, qu'un rien fera sombrer. C'est une foule immense d'humains tremblants et pâles qui s'offrent à la mort pour tenter d'exister. Il s'appelle Ibrahim Rachid Makodou, elle, c'est Jamila la belle ou Fatima. Elles ont contre leur sein des enfants aux yeux doux, des enfants juste nés qui ne comprennent pas. Eux, bras dressés, supplient le ciel noir et cruel, leur bouche n'est qu'un cri où résonne l'effroi. La houle les secoue, les gouffres les appellent. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas vu les villages rasés et les vieilles en larmes, les yeux hallucinés, les haillons, les pieds nus, avec dans le lointain le grondement des armes. Voilà ce qu'ils ont fui par dunes et pierrailles, pour d'autres c'est la fin, qu'en savons-nous ici? La fin, sorcière noire, où faut-il donc qu'ils aillent? Ce n'est pas cœur léger qu'on engage sa vie. Voyant venir cette pure souffrance, nous laissons aboyer les bâtisseurs de haine. Les bâtisseurs de murs aux vieilles idées rances qui sentent la charogne et les brumes anciennes. Et nous baissons les yeux, cœurs et portes fermées, que dira-t-on de nous dans 100 ans, dans 20 ans? Eux suivent leurs chimères, acharnées, harassées. Et la nuit descend sur un monde indifférent.
La vague, Michel Buller, dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et je vous rappelle que vous écoutez un débat enregistré début juillet aux Reclusiennes.
Alors je vais laisser la parole peut-être maintenant d'abord à Isidore qui vient du Calais Research Group, qui va nous parler du contrôle aux frontières hein, puisqu'il arrive de Calais. On va entendre après Sonia Pradine qui vient de Sud Logement Social à Toulouse et qui va nous parler plutôt là de la thématique de l'hébergement et comment on sous-traite de plus en plus l'hébergement des demandeurs d'asile. Et puis enfin Violette Voldoir qui est journaliste et qui a notamment, en tout cas c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui, publié un article dans Radio Parleur sur le coup des Prada. Voilà, donc je laisse la parole peut-être d'abord à Isidore sur les frontières, et puis en plus, après, on viendra sur le thème de l'hébergement.
Ok, merci Isabelle. Et de manière générale, merci à l'organisation des Reclusiennes. Ça fait vraiment très plaisir de venir ici. L'organisation, le cadre, tout ça, c'est super. Et ça fait plaisir aussi de venir dans un cadre où donc, le nom vient de Reclus, alors Élysée ou d'autres. Voilà, moi, par ailleurs, je suis militant anarchiste, du coup, ça me, ça me parle particulièrement et je suis très content des discussions jusqu'ici. Je vais présenter un tout petit peu le Calais Research Network. Donc c'est à Calais, donc il y a tout un ensemble de personnes qui sont bénévoles, militantes, etc. Et moi, je suis plutôt proche de ce qu'on appelle la mouvance No Border. Mais il y a d'autres personnes qui participent à ce petit groupe de recherche Calais Research Network. Comme son nom anglais l'indique, c'est pas que en tous les cas des francophones. Et il y a aussi des gens qui sont proches de ou qui font partie ou écrivent dans Passeurs d'Hospitalité et dans Calais Migrants Solidarity qui participent aussi à ce groupe-là. Donc, je le disais, c'est pas un groupe qui est composé de chercheurs professionnels du tout, mais par contre, c'est composé de personnes qui ont comme objectif politique l'abolition des frontières et la liberté de circulation et d'installation. On a fait un travail donc de recensement un petit peu des entreprises et des acteurs de Calais qui notamment ont profité en particulier du ce qu'on appelait la jungle de Calais ou le campement de Calais, donc entre 2014 on va dire et 2016. Que moi personnellement j'appelle le ghetto et je vais expliquer pourquoi j'appelle le ghetto de Calais parce que à partir du moment où il a été décidé d'organiser ce campement ou cet endroit, c'est une décision de l'État français de créer ce qu'ils ont appelé une zone de tolérance autour d'un centre d'accueil en dur qui était un ancien centre de vacances qui s'appelait Jules Ferry. Et donc c'était une zone de tolérance, mais une zone de tolérance assez particulière, puisqu'en réalité, tous les autres campements, les autres squats qui existaient dans la région, où les gens qui essayent de passer en Angleterre avaient trouvé refuge, un toit en dur parfois, eh bien en fait recevaient quotidiennement ou plusieurs fois dans la semaine la visite de la police et les menaces de la police en disant « Allez autour du camp Jules Ferry, là, du centre Jules Ferry, il y a une zone de tolérance et de toute façon si vous n'y allez pas, on détruira de toute façon votre squat, on détruira votre campement, etc. Donc ça c'est une première partie pour moi définit bien ce que c'est qu'un ghetto et c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Et une deuxième partie qui à mon avis justifie l'utilisation du terme ghetto, c'est qu'une fois que les gens ont été forcés de s'installer là-bas, donc au début quelques centaines, puis quelques milliers jusqu'à, alors selon les chiffres, 8000 à 10000 personnes, la police contrôlait les entrées et les sorties, les matériaux qui avaient le droit de rentrer et de sortir, les activités qui pouvaient avoir le droit d'exister, que ce soit les petits commerces ou qui sont installés, parce que dès qu'il y a un bidonville qui se crée ou un ghetto qui se crée, évidemment, les gens essayent de vivre et créent des structures de vie, donc des restaurants, des boutiques, etc. Et donc, ils ont contrôlé tout ça, ils ont interdit ou tenté d'interdire, ils ont raté, ils ont perdu au tribunal l'interdiction des commerces, en tous les cas d'une partie des commerces dans le bidonville. Et ensuite, ils ont fait ce que j'appelle moi un peu de l'espèce de l'urbanisation sous acide. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, ils ont décidé de détruire la moitié donc, d'une petite ville de 8 à 10 000 personnes. Et puis, quelques mois après, de virer complètement toute cette zone-là pour ensuite forcer les gens dans des bus pour les emmener aux six coins de l'Hexagone. D'où l'expression de ghetto de Calais que moi je favorise. Ensuite, ce dont je voulais parler, c'est que parallèlement à donc toute cette grande capacité d'urbanisation, il y avait en permanence tout un discours autour de l'incapacité de l'État. L'État ne peut pas tout, l'État ne peut pas s'occuper de toutes ces personnes qui arrivent. En prenant à loisir et sans doute avec un peu de malice la formule de Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. et sans mentionner la suite évidemment, mais de reprendre sa part, mais bon, soit. Donc avec ce discours qui disait que voilà, c'est pas possible, on peut pas accueillir les gens, en créant ensuite des conditions de vie tout à fait invivables sur place, donc comme je disais, jusqu'à interdire un lieu de vie de plusieurs, une espèce de petite ville de 8 à 10 000 personnes, d'avoir des commerces, des coiffeurs, restaurants, etc. Et donc ça, c'est évidemment, de notre point de vue, c'était... inacceptable, et je pense qu'il y a peu de personnes qui pouvaient l'accepter, et donc on a décidé pendant et après d'analyser face à ce discours de l'impuissance de l'État, en fait de voir un petit peu tout l'argent qui était fait au même moment sur la gestion et la fermeture la fermeture de la frontière à Calais. Donc, et là on a vu qu'il y avait, donc ça a été déjà mentionné, plein d'échelles de collecte d'argent et de profits qui étaient réalisés sur cette fermeture et cette sécurisation des frontières. Donc que ce soit au niveau, comme ça a été dit, des très grands groupes français de la défense, ou plutôt des marchands d'armes, hein, puisqu'il s'agit de ça, c'est-à-dire des profiteurs de guerre, et bien aussi sur la guerre aux migrants, ils font aussi beaucoup d'argent. Donc EADS, Thalès, mais aussi, puisque j'ai dit que c'était de l'urbanisation sous acide, c'était aussi les entreprises de construction, donc Vinci, les filiales de Vinci. Et ensuite, en dessous, il y a tout un panel d'activités qui sont liées à ce contrôle d'un ghetto, avec donc aussi les entreprises qui font les clôtures. Donc ça, c'est pas forcément des entreprises qui sont gigantesques, ça peut être des entreprises locales. Également au niveau du transport des personnes pour les emmener au-delà, ailleurs de Calais, il y a une réquisition, alors c'est comme ça que ça a été dit, une réquisition des entreprises locales de bus, de cars, pour les emmener à nouveau au six coins de l'Hexagone, et aussi l'utilisation des structures locales aéroportuaires. Donc il y a un petit aéroport ou aérodrome à Marques, une ville qui est à côté de Calais, où, par exemple, une entreprise de transport, on va dire, plus ou moins locale, même s'il était basé à Aix-en-Provence, facturait à la police aux frontières chaque année 1,5 million d'euros. Oui. Par ailleurs aussi, ce qu'on a relevé, c'était qu'il y a une énorme présence policière à Calais. C'est vraiment très impressionnant. Lorsqu'on y est, c'est pas possible de passer 5 minutes dans la rue sans voir passer un ou plusieurs fourgons de police ou des estafettes. Sans compter ceux qui sont sans doute en jour de repos et qui marchent dans la rue et qui vont consommer sur place. Donc toute l'hôtellerie locale, notamment les hôtels Ibis, sont utilisés en permanence pour loger entre 500 et 1500 gendarmes et CRS, avec des choses amusantes qu'on a repérées, notamment sur TripAdvisor, qui est un site de recherche d'hôtels, des commentaires répétitifs disant que c'était pas possible, que notamment on avait noté ça, que l'hôtel déborde de CRS. Voilà. Donc n'y allez pas, vous serez en mauvaise compagnie. Voilà, on a aussi repéré tout ce qui était évidemment les armes de maintien de l'ordre, comme on dit. Alors ceux qui sont les armes qui sont utilisées donc tout au long de l'année pour lutter contre les mouvements sociaux, ou comme récemment utilisées de manière massive à Notre-Dame-des-Landes contre la ZAD Tout ce qui est lanceur de balles de défense, la flashball, tout ce qui est gaz lacrymogène, grenades défensives explosives, hein, qui sont utilisées comme des grenades d'attaque. Hein, ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement clair aujourd'hui. Quelque chose qu'il faut bien rappeler, c'est que pendant que non seulement ils essayaient de... J'ai oublié de le préciser par rapport au ghetto, mais pendant qu'ils contrôlaient les entrées et les sorties, pendant la nuit également, le ghetto de Calais était systématiquement sous un déluge de gaz lacrymogène, et il n'était pas possible de marcher en journée dans les ruelles ou les rues de cet endroit sans marcher systématiquement sur les palais de gaz lacrymogène. Bon, pour les personnes qui ne le savent pas, les tirs de gaz lacrymogène, il y a les bombes évidemment, mais les tirs de gaz lacrymogène ont cet avantage que les policiers à Calais étaient en mesure de les envoyer depuis le pont qui surplombait le ghetto. Et en fait, c'est des cartouches qui contiennent 7 palais, selon les modèles. Donc c'est des choses qui sont également très dangereuses pour un bidonville, puisque les bidonvilles, c'est souvent fait avec de la bâche et du bois. Or, il s'agit de choses très inflammables. Et donc, c'était des dizaines de grenades lacrymogènes comme ça qui étaient lancées chaque nuit. Et chacune de ces grenades coûte plusieurs dizaines d'euros. Donc là aussi, on fait tourner l'économie de l'armement dans des grandes dimensions. Une chose qu'on n'a pas creusée véritablement, mais qui nous a un petit peu sauté aux yeux... On parlait tout à l'heure de rapport colonial ou post-colonial à l'immigration, une partie de l'activité de l'armée française se passe en Afrique, donc le précaré de la France, qui est aussi le lieu où les militaires peuvent faire carrière et prendre du grade, toucher des primes, etc. Je ne dis pas que c'est un travail facile, mais je pense aussi que c'est possible de faire autre chose de sa vie. Et donc les gendarmes et les policiers qui interviennent à Calais sont aussi des gens qui bénéficient de primes lorsqu'ils sont là, qui ne cessent de se plaindre de leurs conditions de travail. Je ne suis pas un expert du fonctionnement de la police et des préfectures, mais c'est vrai qu'on voit des figures arriver très régulièrement, avec un turnover des policiers et des préfets et des préfètes qui ensuite trouvent des positions tout à fait confortables une fois avoir rempli leur mission à Calais. Pour continuer un petit peu avec les catégories qui gagnent de l'argent, je pense que il y a aussi, alors ça, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, mais c'est tous les services et tous les commerces qui sont à Calais et à proximité, qui, quand il y a une population de 8 à 10 000 personnes qui arrivent dans une ville qui en fait 90 000, ça fait quand même d'un coup 10 000 personnes potentielles, 10 000 clients potentiels. Alors certes, le plus souvent des argentés, mais quand même pas complètement qui arrivent. Mais de toute façon, il y a aussi tous les bénévoles qui arrivent par centaines à ce moment-là et qui donc doivent trouver un logement, doivent se nourrir, s'habiller, sortir, etc. Donc, je dis, c'est pas un problème, effectivement, que ces commerces, ces fournisseurs de services gagnent de l'argent avec ça, sauf comme lorsqu'à Calais, une partie d'entre eux s'unissent pour se plaindre de la présence des migrants et de la mauvaise image que ça donne à la ville, en déniant en réalité les bénéfices qu'ils en tirent. Mais sans doute par rapport clientéliste aussi avec la mairie. J'ai oublié de préciser, mais ça paraît assez clair, avec Natacha Bouchard, qui est sénateur, maire UMP, et puis maintenant Les Républicains, qui s'est distinguée notamment il y a quelques années, je pense en 2015, par la création d'une adresse chez Google, qui en appelant à la délation par rapport aux gens qui ouvrent des maisons pour héberger ou pour juste s'installer à Calais. Je vais, euh, Je vais maintenant donner un petit peu de chiffres pour étayer mon propos, comme on dit. Et donc, il faut que je retrouve la bonne page. Oui, donc, comme je disais, donc je commençais en 2014. Donc, l'argent, par rapport à... Oui, c'est quelque chose que je voulais dire aussi qui est important. C'est que au début du ghetto de Calais, il y a les associations locales qui se sont unies pour porter plainte pour les mauvais traitements par rapport aux migrants dans le bidonville et les conditions indignes de leurs conditions de vie. Voilà. Et bon, évidemment, ils ont été, enfin pas évidemment, ils ont été condamnés effectivement pour donc parmi les choses qui étaient dénoncées, c'était le manque de points d'eau. Il y avait 3 points d'eau pour plusieurs milliers de personnes dans le bidonville dans le ghetto de Calais. Ils ont contesté ça. Ils ont quand même perdu au tribunal administratif. Au tribunal administratif, ils ont ensuite Ils ont ensuite fait appel. Et c'est au Conseil d'État que ça a été confirmé qu'ils étaient en dessous des moindres standards, on va dire humanitaires. Et je précise ça pour montrer jusqu'à quel point ils vont, c'est que dans leur défense, ils sont allés jusqu'à dire oui, mais c'est pas seulement 3 points d'eau, mais sur chacun de ces points d'eau, il y a 5 robinets, donc c'est 15 points d'eau. Voilà, donc c'était 15 points d'eau pour 3000 personnes à ce moment-là. C'est à ce niveau-là que donc notamment un conseiller d'État a écrit un mémoire en défense en mentionnant ce genre de choses. Donc ils sont sans limite dans les décences. Voilà. Mais maintenant, je vais aller très rapidement pour vous présenter un petit peu de chiffres sur tout cet argent. 2014, la Commission européenne accorde 3,8 millions d'euros de financement d'urgence pour cofinancer la création du centre de jour Jules Ferry. Septembre 2014, il y a un fonds commun de 15 millions d'euros établi par Bernard Cazeneuve et Theresa May pour le même sujet. En juillet 2015, la Grande-Bretagne annonce 2 millions de livres pour une zone de sécurité à Calais pour les camions à destination de Grande-Bretagne et 7 millions de livres pour d'autres mesures de sécurité, pas forcément à Calais. En mars 2015, la Grande-Bretagne demande à bénéficier de la part de l'AMIF, donc c'est un fonds européen d'aide d'urgence sur les questions de migration. Il demande environ 27 millions d'euros de financement lié aux migrations, qu'elle reçoit quelques mois plus tard. C'est beau, cette efficacité. Et la France reçoit également 20 millions d'euros en 2015. Bon. Calais n'a pas été la principale utilisation de ces fonds, mais ce serait étonnant que ce soit moins que plusieurs millions. Ensuite, en août 2015, la Grande-Bretagne s'engage à payer 3,5 millions de pounds, donc 5 millions d'euros pendant 2 ans pour le financement donc, qu'ils ont externalisé leurs frontières à Calais. Et la déclaration avec cette somme indique qu'il y aura 500 agents de police britanniques et français sur Calais pour la fouille des cargaisons, des chiens pour faire des fouilles et des vols de charter, etc. Ça va très très vite. La fin du mois de 2015, la Commission européenne annonce 5,2 millions d'euros d'urgence pour aménager la zone autour de Jules Ferry et financer le transport des personnes réfugiées et migrantes de Calais vers d'autres lieux en France, donc ce qui se traduira par la réquisition notamment des bus et cars. Et en mars 2016, un sommet franco-britannique annonce 22 millions d'euros pour la sécurisation de Calais et également dans ce même rencontre, 2 milliards d'euros pour un programme de drones européens. Voilà, donc face à l'absolu dénuement, tous les efforts faits pour détruire tout ce qui permet aux gens de vivre sur Calais, face à ces stratégies d'intimidation et de force pour forcer les gens à se regrouper dans un bidonville, alors que les bidonvilles, même au-delà, à partir de quelques centaines de personnes, ça devient souvent invivable. Par rapport à ça, en parallèle, il y a donc des sommes qui sont débloquées en 2 ans, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros ou de livres pour le... Oui, pour la sécurisation et la répression donc, des migrants à Calais. Fin 2016, du côté anglais, le Home Office faisait une annonce, un appel d'offres pour environ 80 millions de livres pour 40 agents de fouilles assermentés 24 heures par jour, 365 jours par an, pour la société Eurotunnel et pour les ports de Calais et Dunkerque. Voilà, donc on est vraiment là dans du lourd en termes d'investissement. C'est une entreprise basée initialement, créée en 2004 par un policier calaisien qui a remporté à la fin de 2016 ce contrat. Apparemment, il a demandé seulement environ 40 millions de livres pour se faire ce travail. Voilà, donc ce que je voulais raconter dans ce petit intervention, c'était l'extrême asymétrie qui existe entre l'argent qui est dépensé dans toute cette industrie morbide de fermeture des frontières, qui vise à rendre la vie invivable aux personnes qui simplement essayent d'aller en Angleterre et qui, comme ça a été déjà dit cet après-midi, essaieront toujours, parce que c'est pas parce qu'on met un drone en plus ou une caméra en plus ou un rang de fil de fer barbelé en plus que les gens cesseront de vouloir voyager. Et voilà, je conclurai là-dessus. En disant que on a fait donc cette liste avec 40 entreprises donc internationales ou plus locales, parfois des entreprises familiales, pour que les gens s'en saisissent et utilisent les moyens qu'ils souhaitent donc pour lutter contre. Par exemple en Suède, pour empêcher une partie de justement du transport des migrants et de l'expulsion des migrants, il y a des opérations de harcèlement téléphonique qui sont faites et de pression qui sont faites sur les entreprises de transport. Il y a donc voilà, tout est possible pour vous dans la mesure où vous prenez les précautions nécessaires et l'illégalité n'est pas nécessaire. Déjà faire savoir qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent sur des objectifs meurtriers ou au moins morbides autour de la fermeture des frontières, ça fera avancer les choses. Je dirais aussi un dernier truc et j'aurai vraiment fini, c'est que normalement on devait être deux avec Mariam aujourd'hui. Moi je vais à Calais une fois par semaine, elle y est au quotidien depuis des mois. À Calais, il y a énormément de personnes qui font du travail militant ou bénévole et qui se brûlent, qui s'épuisent à faire tout ce travail. Moi, sans doute, parce que j'y vais seulement un jour par semaine que je suis en mesure d'être là pour en causer. Et donc, voilà, je finirai juste là-dessus. Et je n'ai pas dit du tout ce que je voulais dire. Donc, si vous avez des questions ensuite, vous serez les bienvenus.
Tu viens de me frapper. Toi, tu as tous les droits que donne ton métier. Et moi, le pauvre con, comme un bon ouvrier, j'ai construit la prison où l'on va m'enfermer. C'est vrai, je suis arabe et un peu portugais. J'ai tout le sang du monde, sauf celui de français. C'est vrai, je suis arabe et un peu portugais. J'ai tout le sang du monde, sauf celui de français. messieurs les magistrats, vous m'avez condamné. Ça valait pas tant que ça va, mais l'exemple c'est sacré. Et dire que vos voitures, c'est moi qui les ai faites, pas entièrement bien sûr, j'étais que la marionnette. Un peu je suis arabe et un peu portugais, j'ai tout le sang du monde sauf celui de français. C'est vrai, je suis arabe et un peu j'ai tout le sang du monde, sauf celui de français. Madame la Française, toi, tu m'as insulté, et tu peux à ton aise blesser et humilier. Je dois payer l'amour quand ça devient trop dur, dans des endroits faits pour qui ressemble à tes ordures. Quitter ma région où le pain ne poussait pas. Ils viennent plus les colons, et chez eux c'est nous qu'on va. Au lieu de mourir là-bas, on vient crever ici. L'été, on reste là. Eux, ils sont au pays. C'est vrai, je suis arabe et un peu portugais. J'ai tout le sang du monde, tout sauf celui de français. C'est vrai, je suis arabe, un peu turc et un peu portugais. Oh, j'ai tout le sang du monde, sauf celui de français. Mon pays, c'est celui où je mange le pain, où l'amour est un fruit que je cueille à ma faim. Si mon ventre est chez lui, si de temps en temps mes regards et ma vue sont toujours émigrants. Nous sommes tous des Arabes, des Noirs, des étrangers. Nous sommes la richesse, nous sommes les ouvriers. Nous sommes tous des Arabes, des Noirs, des étrangers. Nous sommes la richesse, nous sommes les, nous sommes les oubliés. Tout
le sang du monde, Serge Gérouillot, dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous allons retourner à Sainte-Foy-la-Grande où nous avons enregistré début juillet ce débat.
Bon, maintenant je vais laisser la parole à Sonia Pradine, là sur la thématique plutôt de l'hébergement. Donc une fois que les migrants, et puis en l'occurrence là plutôt, je pense que vous allez parler plutôt des demandeurs d'asile, réussissent à entrer sur le territoire français en l'occurrence, que deviennent-ils, dans quelles conditions sont-ils hébergés et qui sont finalement les entreprises qui gèrent ces centres d'hébergement et comment ces centres-là sont-ils gérés?
Bonsoir. Donc moi, je suis en fait salariée de l'entreprise Adoma, qui est plus connue souvent sous le nom de Sonacotra, puisqu'elle a changé de nom il y a une petite dizaine d'années, qui faisait en fait, qui fait du logement social, historiquement du logement de travailleurs migrants, les fameux Chibani, les personnes qui sont venues du Maghreb reconstruire la France. Et je suis, alors je suis pas là en tant que représentante d'Adoma, je le précise bien à toute fin utile puisque ça ne plaît pas du tout à ma direction, mais en tant que déléguée syndicale et représentante des salariés du syndicat effectivement sur le logement social. Donc l'entreprise Adoma en fait effectivement historiquement faisait ces foyers de travailleurs migrants, ces FTM, jusqu'au milieu des années 90. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que les personnes qui étaient dans ces foyers-là, ben, petit à petit, de fait, décédaient. Et donc, il y avait de plus en plus de vacances dans ces foyers que ben, ils avaient beaucoup de mal à remplir ces foyers-là et à trouver une nouvelle clientèle. Donc là, ils se sont positionnés sur un nouveau créneau qui est en pleine expansion, qui était l'hébergement des demandeurs d'asile, par le biais de ce qu'on appelle les CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Donc, depuis les premiers CADA à Doma, créé à ce moment-là, on a augmenté de façon exponentielle le nombre d'établissements. Actuellement, Adoma gère à peu près 10 000 places de CADA sur les 40 000 qui existent en France, puisque les autres sont gérés souvent par des petites associations locales ou d'autres opérateurs associatifs comme Forum Réfugiés, comme FTDA, France Terre d'Asile, voilà, des associations de ce genre-là. Donc Adoma gère à peu près 10 000 places de CADA et à peu près 10 000 autres places d'hébergement pour demandeurs d'asile, parce que les demandeurs d'asile, ils sont logés dans tout un tas de dispositifs différents, et là aussi, au fur et à mesure, au lieu de simplifier le schéma de la demande d'asile, enfin l'hébergement des demandeurs d'asile, on le complexifie. On a des ATSA, des accueils temporaires de services à asile, on a des HUDA, des hébergements d'urgence de demandeurs d'asile, on a des CAO depuis quelques années, des centres d'accueil et d'orientation. On a toute une tripotée de dispositifs différents qui visent tous à héberger des demandeurs d'asile, mais avec des tarifs différents, avec des prestations différentes, avec un accompagnement différent. Voilà, donc c'est très très compliqué puisqu'on peut très souvent avoir plusieurs dispositifs qui sont accolés l'un à l'autre. Sur un site, vous allez avoir dans un bâtiment du CADA, dans le bâtiment d'à côté, de la TSA, et il sera un peu difficile d'expliquer aux personnes qui sont exactement dans la même situation administrative que l'AE, ils relèvent du CADA, donc ils ont une prestation, par exemple, d'alphabétisation ou une prestation d'accompagnement social plus poussée, et que ceux d'à côté, sur le palier d'en face, eux, ben, ils relèvent de la TSA, donc il y a une prestation moindre, parce qu'il y a un prix de journée qui est moindre. Donc déjà, c'est un petit peu la particularité. Et Adoma a souhaité encore, en quelque sorte, diversifier son offre d'hébergement. Il y a peu, depuis ce projet remonte à peu près à 2 ans, enfin a commencé à voir le jour il y a 2 ans, en se calquant sur un fonctionnement qui s'appelle en anglais Social Impact Bond, des fonds d'investissement à impact social. La Violette tout à l'heure vous détaillera peut-être un petit peu plus ce fonctionnement au niveau national voire international, le contexte. Moi, je vais vous détailler un peu celui qui a été mis en place par Adoma. Donc c'est un dispositif qui est totalement novateur. C'est-à-dire qu'au niveau de la France, ça n'avait jamais été fait. C'est un fonctionnement qui peut s'apparenter à ce qu'on peut connaître au niveau des marchés publics, au fameux PPP, les partenariats publics-privés, dont vous avez peut-être tous entendu parler, pour la construction de telle piscine, la construction de telle autoroute, la construction de telle... voilà. Donc, en gros, c'est le privé qui finance le projet. Et c'est le public qui en gros paye une grande partie du projet au fur et à mesure de son évolution. Et au final, c'est censé coûter moins cher dans l'absolu que si c'était financé par le public, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de prêt à investir, il n'y a pas de crédit, puisque c'est le privé qui se charge de la mise de départ. Sauf que dans les faits, on s'aperçoit avec le PPP, par exemple, que il y a beaucoup de choses où, entre la théorie et la pratique, il y a un écart qui est énorme, et des projets qui auraient dû coûter 100 millions coûtent à l'arrivée 200 millions. Donc là, on est un petit peu dans le même fonctionnement. Donc je vais vous mettre un petit peu le schéma. Voilà. Donc ça, c'est la présentation officielle de ce fameux projet Hémisphère, qui a un très joli nom. Et c'est la plaquette officielle de présentation avec tout le fonctionnement idéalisé du truc, que je vais m'employer bien gentiment à tout vous démonter. Pas de problème. Donc, ils sont partis, alors dans la théorie, ils sont partis du constat qu'il y avait un nombre de nuitées hôtelières très important payées par l'État et qui coûtaient très cher à l'État. Puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 40 000 places de CADA en France et actuellement, enfin, l'année dernière, on était autour des 100 000 demandes d'asile. Donc vous voyez bien que tous les demandeurs d'asile ne sont pas logés en CADA. Certes, il y a une grande partie de demandeurs d'asile qui, enfin, il y a des demandeurs d'asile qui n'ont pas besoin d'être logés en CADA parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui ont de la famille, ceux qui sont logés par la communauté, etc. Mais on peut quand même supposer qu'il y a un peu plus que juste 40% qui ont besoin de se loger en CADA. Donc, ce qui se passe, c'est comme c'est une obligation, comme ça vous a été expliqué précédemment, c'est une obligation de l'État de loger les demandeurs d'asile, ben, ils sont logés par le biais de nuitées hôtelières. Concrètement, sur des marchands de sommeil. Hein. C'est la plupart du temps, dans les grandes villes, il y a des hôtels entiers, dans des quartiers généralement autour de la gare, des choses comme ça, qui sont pas réquisitionnés, puisque c'est de gaieté de cœur que le font les hôteliers, mais qui sont occupés entièrement par des demandeurs d'asile pour loger ces personnes-là à des prix, effectivement, prohibitifs. Plus, il y avait l'autre type de population, qui était la population qui dépendait du 115, donc du logement, l'hébergement d'urgence, SDF, tout ce type de population, qui, là aussi, dans certaines situations, pouvait se retrouver dans ces hôtels-là à un coût qui était très important pour l'État. Donc, effectivement, il y a ce constat qui peut être partagé par tous, de se dire, ah oui, dis donc, c'est absolument pas normal de payer 50 euros pour une chambre d'hôtel ridicule, sans accompagnement social, dans des conditions qui sont à la limite de l'insalubrité, et de finalement de financer des marchands de sommeil. Là-dessus, je pense que voilà, il y avait un consensus. Donc, qu'est-ce que l'État dit ? Par contre, l'État dit, oui, bon, moi, je veux bien résorber ces nuitées hôtelières, par contre, j'ai plus de sous. Je ne veux pas mettre de sous dans la demande d'asile, ça suffit, c'est pas intéressant. Donc, vous débrouillez. Et finalement, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais faire un appel d'offres. Je vais demander à ce que soit créé l'équivalent de 7000 places, 5000 à peu près pour les demandeurs d'asile et 2000 pour l'équivalent 115, 7000 places pour résorber ces nuitées hôtelières. C'est un appel d'offres qui est totalement inédit. C'est un appel d'offres monstrueux. Au niveau du monde social, la plupart du temps, quand vous avez des appels d'offres, c'est fait au niveau départemental ou régional. Et on parle de 200, 500, 1000 places. Je pense que c'est une limite très, très haute. 7000 places, enfin 10000, au total, c'était 10 000 places pardon, au départ. 10 000 places, c'est énorme. Donc l'État dit, voilà, moi, je lance un appel d'offres pour ça. Et là, il y a d'un seul coup un alignement des planètes. Il se trouve que, miraculeusement, le groupe Accor avait un plan, voulait monter en gamme, et se disait, mes Formule 1, c'est tout pourri, personne n'en veut, ils sont dans un état catastrophique, je voudrais me repositionner sur de l'hôtellerie un peu plus luxueuse, et dites donc, si j'allais voir la SNI, qui est donc notre financeur principal au niveau d'Adoma, parce qu'Adoma, c'est une société d'économie mixte avec des fonds de l'État, mais avec des fonds aussi privés. Et on appartient essentiellement maintenant à la SNI. C'est très compliqué, je ne vais pas vous faire tout l'historique là-dessus, mais la Société Nationale Immobilière, qui est une filiale elle-même de la CDC, c'est-à-dire la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Donc là, il y a voilà, le groupe Accor, soi-disant, pile à ce moment-là, ça tombe bien, avait justement, exactement, le nombre d'hôtels qui correspondait à ce nombre de places dont ils voulaient se débarrasser. C'est fou. Enfin, là, c'est déjà... Mais c'est de très bon augure. Et donc, ils disent, bah, tiens, on va aller voir la SNI et on va leur proposer quelque chose. On va leur proposer de leur vendre ces hôtels-là. Et la SNI se dit, ah oui, nous, ça nous intéresse, mais on n'a pas les sous. Donc comment on fait ? Eh bien, on monte un fonds de placement, en fait. Un truc totalement innovant, c'est-à-dire, concrètement, c'est des investisseurs privés, BNP Paribas, CNP Assurance, Aviva, la Maif, qui, elle, actuellement, est un petit peu gênée aux entournures de ce placement-là, qui dit, bah, écoutez, nous, on a des sous à placer. Et ce serait super de le placer dans le social. Ça ferait, alors on a assez de faire du greenwashing, maintenant on va faire du social washing, ça fera super bien sur nos plaquettes. Et il se trouve que la Banque du Conseil européen de l'Europe était aussi prête à financer à hauteur de 100 millions, parce que le coût total de l'opération était évalué à peu près à 250 millions d'euros, ce que l'État n'avait donc pas. Donc là, il y a ce fonds de placement qui se crée et qui... voit avec Adoma en disant, bah, écoutez, nous, on est prêts à acheter les hôtels, parce que vous, Adoma, vous n'avez pas les moyens, vous êtes finalement une petite entreprise de 2500 salariés, vous n'avez quand même pas les moyens de mettre 250 millions d'euros alors que vous dégagez 30 millions de bénéfices annuels. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on va acheter les hôtels et puis on va vous les louer. Et en échange de cette location, voilà, du coup, nous, après, on va rémunérer nos investisseurs à hauteur de 3,5% minimum garanti. Donc là aussi, actuellement, 3,5% garanti. Si quelqu'un a un placement sûr comme ça, levez la main, ça m'intéresse, j'ai mon livret A qui est tout pourri à 0,75, je ne sais même pas s'il n'est pas à 0,50. Donc on me dit, et minimum, on n'a pas le plafond haut. Donc du coup, là, c'est génial. Le groupe Accor, il se dit, mais super, je vais me débarrasser de mes hôtels. Voilà. Bon, ces 62 hôtels sont achetés. Au final, Adoma récupère pas, le fonds Hémisphère via Adoma récupère pas les 10 000 places prévues, mais en récupère quand même 7 000, puisqu'il y en a quelques-unes qui ont échappé au fond dans le Nord-Est. Il y a quelques opérateurs privés qui ont réussi à avoir certains des marchés parce que cet appel d'offres avait été décomposé en, il me semble, 5 différents marchés. Ce qui reste quand même des choses monstrueuses auxquelles, bien évidemment, il se trouve que c'est extraordinaire, mais aucune association ne pouvait répondre. On aurait presque eu l'impression que ça avait été formaté pour que seul Adoma et le Fonds Hémisphère puissent répondre à cet appel d'offres. Mais enfin, ça, ce serait être... Voilà, tout à fait. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Donc Adoma, du coup, voilà, se retrouve avec ses 62 hôtels. Petit problème, quand même. Qu'est-ce qu'on fait des salariés ? Eh bien là, soyons fous, le groupe Accor dit, mais dites donc, moi je vous ai quand même permis d'avoir 62 hôtels, ben, vous me reprenez mes salariés, comme ça vous m'économisez un plan de licenciement économique. Et Adoma dit, mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. D'ailleurs, pendant 2 ans, nous on va bloquer toutes nos places, on va bloquer tous nos postes. Si jamais il y a un salarié d'Adoma qui s'en va, on bloque le poste, on le gèle, pour que vos salariés soient prioritaires. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui est bon, mais il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve avec un recrutement nécessaire de 350 salariés à peu près sur ces 62 hôtels. Et sur ces 350 salariés, eh ben, on récupère 100 salariés du groupe Accor, qui bien évidemment étaient tous diplômés de travail social. Ils étaient tous assistants sociaux, ou conseillers économiques, sociaux et familiales, ou éducateurs spécialisés, bien évidemment. Parce qu'on travaille tous à l'accueil d'un Formule 1, alors qu'on a un diplôme de travail social. Mais Adoma dit, mais il n'y a pas de problème. Là-dessus, moi, après tout, je trouve que les écoles qui font de la formation en travail social, elles sont vraiment nulles. Elles font le travail en 3, 4, 5 ans. Moi, je suis capable de le faire en 3 semaines. Pas de problème. Donc, on fait la formation en 3 semaines. C'est génial. Il n'y aura pas de souci. Donc, on se retrouve avec 100 salariés du groupe Accor qui sont repris comme ça, avec une formation en 3 semaines. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Il y a quand même si ça coince un petit peu. Au fur et à mesure, on se rend compte que ça coince un petit peu. Parce que ça, Violette va peut-être vous l'évoquer aussi un petit peu. C'est difficile de gérer des demandeurs d'asile avec un dispositif qui est vraiment un minima. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, la norme, entre guillemets, ce qui est censé être idéalisé maintenant, c'est effectivement le CADA, qui recevait, il y a 10 ans, avait un taux d'encadrement de 1 salarié pour 10 résidents. On est passé à 1 salarié pour 20 résidents en moins de 10 ans, ce qui déjà a de graves conséquences sur l'accompagnement des demandeurs d'asile. Et là, les PRADA, on est à du 1 pour 25. Sauf que même l'1 pour 25, il n'est pas réaliste, parce que les CADA, c'était l'équipe d'encadrement. Dans les PRADA, le 1 pour 25, on compte ce qu'ils appellent aussi les agents polyvalents, c'est-à-dire concrètement la maintenance. Donc on n'est même pas en vrai pour 1 pour 25, on est peut-être à 1 pour 30, sans compter que, comme vous l'imaginez bien, ces sites, les Formule 1 sont rarement dans des endroits facilement accessibles, où il y a peu de transports en commun, donc il y a beaucoup de difficultés au quotidien là-dessus, sur la scolarisation des enfants, sur tout ça. Donc on se retrouve avec des salariés qui sont en souffrance, qui démissionnent à tout va, régulièrement. Et donc, le taux d'encadrement, lui, est sur beaucoup de sites assez fictif, puisque le temps de remplacer, le temps de trouver quelqu'un d'autre qui accepte d'aller travailler dans ces conditions-là, ben c'est assez difficile. Qu'est-ce que ça pose aussi comme problématique là-dessus ? Je vais en conclure là-dessus pour ne pas être trop longue sur cette explication. Oui, l'idée, comme vous le voyez sur ce magnifique schéma, c'est que, ah là là, à la fin, l'État réalise une économie de plus de 40% sur les coûts d'hébergement. il n'y a pas de miracle non plus. C'est effectivement, au niveau des prestations, on est à moins de 40%. Je pense qu'on est même à moins de 50%. Il y a plein de prestations qui ne se font pas. Et on peut se dire, ben oui, après tout, finalement, si le privé il réussit comme ça à faire mieux que le public, pourquoi pas ? Sauf que, qu'est-ce qui se passait avant, en fait ? Les 3,5% déjà, ça veut dire que c'est 3,5% qui échappent au projet en lui-même. 3,5% minimum, je le rappelle. Donc, c'est 3,5% qui ne seront pas réinvestis, comme ça se fait dans des dispositifs sociaux habituels, où quand on a un excédent, ben, on peut le réinvestir dans le dispositif sous forme d'un projet, sous forme d'un développement, sous forme... Voilà, c'est le dispositif en lui-même qui en bénéficie. Là, c'est 3,5% minimum qui échappe concrètement à l'accueil de ces demandeurs d'asile. Donc, c'est 3,5% quelque part d'impôt aussi, hein, parce que c'est l'État qui va payer pour ça et qui, au final, va payer pour des financeurs. Plus, il y a d'autres coûts, parce que pour avoir l'air de justifier d'une légitimité de subvention, enfin de dividendes, on a créé des indicateurs. Et c'est en fonction de ces indicateurs que les financeurs vont être rémunérés au-delà des 3,5%. Ces indicateurs, on les voit, ça va être la scolarisation des enfants, ça va être la signature d'un contrat à l'accueil, ça va être l'ouverture des droits sociaux, ça va être l'orientation à la suite, quand ils sont, s'ils ont un statut de réfugié, vers un logement pérenne. C'est-à-dire, concrètement, c'est tous les indicateurs, c'est des indicateurs qui sont fallacieux. C'est-à-dire que le but même d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, par exemple, c'est de scolariser les enfants, c'est d'ouvrir des droits sociaux. C'est-à-dire qu'on vous rémunère pour votre mission en elle-même. Donc, ça n'a un peu aucun sens. C'est comme si on allait rémunérer un cafetier en lui disant, on ne va pas te rémunérer au pourcentage, au nombre de cafés que tu verses, mais au fait que tu verses un café. C'est, oui, je suis cafetier, je verse un café, c'est évident. Donc, y a, là aussi, il y a une sorte de duperie dans la présentation qui fait que, bien évidemment, qu'on va pouvoir aller au-delà des 3,5%. Enfin, je pense qu'ils pensaient bien évidemment, sauf qu'après, sur le terrain, ils se rendent compte que dans la scolarisation, par exemple, c'est pas si évident. Là, je crois que le taux cible, s'ils parlent de taux cible, c'est du 95% de scolarisation des enfants. Sauf qu'entre les enfants qui sont handicapés, les enfants qui sont malades, les enfants où on est sur des municipalités qui traînent les pieds, parce que concrètement, ce projet-là a été très mal pris dans beaucoup d'endroits. Il y a eu beaucoup de blocages parce qu'il a été imposé de Paris sans aucune concertation au niveau local avec les maires, avec les préfectures, etc. Donc, il y a certaines mairies. Le concept d'immigré, déjà, c'est pas welcome. Mais alors, en plus, le concept d'immigré sans aucune concertation, non, on va tout faire, quitte à se mettre dans l'illégalité, pour refuser un projet comme ça. Là, ça a été fait aussi en dépit du bon sens et de la diplomatie minimale qu'on pourrait attendre de personnes qui sont sur des financements de telle sorte. Donc, voilà, c'est 3,5%. Ils sont assurés, voire au-delà, bien évidemment. Et pour qu'il soit diversé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Oui, c'est bon, on est dans les indicateurs ». Et ça veut dire qu'on emploie un cabinet d'audit externe, en l'occurrence KPMG, hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça parle, qui va être payé lui aussi, donc qui, au passage, va prendre sa petite commission, va prendre sa rémunération, et qui donc coûte au fond aussi. Donc tout ça, voilà, on nous dit qu'on fait des économies. Oui, on fait des économies par rapport à des chambres de nuitée hôtelière chez des marchands de sommeil, mais on fait certainement pas forcément des économies par rapport à du CADA. En tout cas, on fait certainement pas des économies sur le qualitatif, sur la qualité d'accompagnement des demandeurs d'asile, qui aussi, il faut avoir un peu là-dessus, et je conclurai là-dessus, une vision un peu à long terme de la manière dont on accueille ces gens-là. Moi, il me semble qu'effectivement, on va nous dire, finalement, il n'y a pas besoin de faire d'alphabétisation en CADA. Il n'y a pas besoin de faire d'explication des règles de vie en société en CADA. Tout ça, toutes les missions qui étaient autrefois occupées par des salariés du CADA, des animateurs, dont des postes qui ont été supprimés quand on est passé du 1 pour 10 à 1 pour 20, finalement, après tout, on arrive très bien à faire tourner un CADA à 1 pour 20, et puis même des dispositifs à 1 pour 25, voire 1 pour 30. Oui, c'est-à-dire qu'on arrive à dire aux gens, tenez, voilà votre chambre. C'est tout. Mais ces gens-là, si on ne leur explique pas concrètement, voilà les règles de la République. Voilà comment ça se passe. Je vais vous apprendre à parler français. je vais vous accueillir, je vais vous expliquer ce qu'est la CMU, ce qu'est la Sécu, je vais vous expliquer ce qu'est Pôle emploi, je vais vous expliquer qu'il y a une obligation de scolarité en France, je vais vous expliquer qu'il ne faut pas taper sa femme, parce que malheureusement, on se retrouve sur des situations comme ça, on a des personnes, bien évidemment, des publics où il y a des différences culturelles, où il y a des problématiques psychosociaux, de traumatismes qui peuvent rejaillir sur la famille. Tout à fait, tout à fait. Mais en France, les gens, j'aurais tendance à dire qu'il se trouve que, heureusement, entre guillemets, les gens qui le font savent qu'ils sont dans l'illégalité. Quand on a des demandeurs d'asile qui viennent de certains pays, ils ne le savent pas systématiquement. Enfin, je ne vais pas faire... voilà. Ah non, le fait de la violence, la violence n'est pas culturelle, ça c'est clair. La violence est transversale. Mais voilà, toutes ces problématiques-là qui peuvent être traitées quand on prend le temps, qu'on a suffisamment de salariés qui peuvent être traités, ne le sont plus quand on est sur des dispositifs comme ça. Et on peut se dire, bah, après tout, c'est pas grave, hein, on n'a pas besoin de les traiter, hein, finalement, les gens, ils n'en meurent pas. Oui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ces gens-là, on va les retrouver au chômage, parce qu'on ne leur aura pas expliqué comment apprendre le français, on ne leur aura pas expliqué le fonctionnement du système de sécurité sociale, etc. On aura de la déscolarisation des enfants, donc pareillement à plus long terme des problématiques de chômage. On aura de la saisie des CCAS locaux. Enfin, ça a un coût aussi pour la société, même si on réfléchit en termes purement économiques. Je mets de côté l'aspect purement moral parce que ça me paraît tellement évident. Et puis je pense que là-dessus, on va tous être d'accord pour dire oui, on doit recevoir ces gens-là avec le sourire, avec la décence, avec la dignité qui leur est due. Ça, c'est un consensus global. Mais si je me mets du point de vue de ces financiers qui sont dans un fonctionnement purement économique, ben même à ce niveau-là, quelque part, on peut avoir des arguments en disant « Mais attendez, ce que vous dites, c'est que c'est des économies, mais c'est des économies à court terme, c'est des économies de bout de chandelle. Dans 5 ans, dans 10 ans, ces économies-là, elles auront plus, elles existeront plus. » Parce que finalement, on aura des gens qui auraient pu être plus rapidement intégrés, on revient sur la discussion de tout à l'heure, et qui là, ben, le sont avec plus de difficultés, qui arrivent avec un ressenti, une amertume vis-à-vis de l'État français parce qu'ils sont logés dans de mauvaises conditions, parce qu'on s'est mal occupé d'eux à leur arrivée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est dommage. Voilà, je vais laisser Violette peut-être parler plus largement du social impact fund.
Ça fait 5 ans, c'est reparti pour de tout. V'là les bons sentiments, au menu des discours. Journaux, radio, télé sont dans les starting blocks. Pas fini d'en bouffer des belles promesses en toc. Les cuistots du pouvoir nous servent à toutes les sauces. Qu'il n'y a plus un radis noir, que le trou est à la hausse. Pendant que sous les dorures des bureaux, des palais, les grosses légumes carburent au dessert, plus les frais. Oh, qu'est-ce qu'il y a au menu des prochaines élections? Qu'est-ce qu'il y a au menu qui paiera l'addition? Tous les jours ça fricasse au fond des petites cuisines. C'est plutôt dégueulasse, surtout quand ça marine. Les pigeons sont plumés, bien pressés, les citrons. Faut des patates, du blé, de l'oseille pour la nation. Moi qui étais si gentil, un vrai cœur d'artichaut, je croyais au paradis, aux cerises sur les gâteaux. Mais ma pomme en a marre des petits plats aux fadaises. Quand on me prend pour une poire, faut que je ramène ma fraise. Oh, qu'est-ce qu'il y a au menu des prochaines élections? Qu'est-ce qu'il y a au menu? J'ai comme une indigestion. Le chéri de ces dames, qu'a le cœur en papillon. C'est fou ce qu'il a comme charme, ça tombe comme à Gravelot. Nous a servi la gauche sur un plateau d'argent. Mais c'est la finance qui fauche dans le champ de blé du changement. Suis Kéo comme trois pommes, le petit roi des claquettes. Au cul, la des casseroles, et pas pour la blanquette. Il met des talonnettes pour voir la France d'en haut. La France d'en bas c'est bête, c'est pas trop son credo. Oh qu'est-ce qu'il y a au menu des prochaines élections? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Je pleure, mais c'est pas les oignons. La fille a son papa, plus blonde qu'une Aquitaine. Comme Jeanne, elle a des voix en cultivant la haine. Et sa cote est au mieux dans la famille française. Depuis que le vieux Grinche sucre un peu trop les fraises. Un banquier, une écolo, un social au ronchon. Pénarque, lutteuse, coco, y'a vraiment du monde sur le pont. Ça se banane pour de vrai au fond du panier de crabe. Il en faudrait des couplets pour faire le tour de table. Oh qu'est-ce qu'il y a au menu des prochaines élections? Qu'est-ce qu'il y a au menu qui va choper le melon? Dans nos restos du cœur, libres égaux en fin de droit, on rêve de jours meilleurs en digérant tout ça. Comme on compte pour des prunes, faut nous lâcher la grappe. C'est jamais dans les urnes que le bonheur s'attrape. Allez, je range ma chanson et j'invite mes potos à faire un bon gueuleton, un vrai, un grand, un beau. Et on lèvera nos verres, nos guitares et nos voix à ce monde qu'on espère et sans Dieu et sans roi. Oh, qu'est-ce qu'il y a au menu des prochaines élections? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Va y avoir des marrons. Qu'est-ce qu'il y a au menu des prochaines élections? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Appelez-moi le patron. Qu'est-ce qu'il y a au menu qui prendra le pognon? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Putain, ça sent pas bon, mais vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a au menu? On nous prend pour des cons. Ah oui, des vrais. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Je crois pas que mes potes iront. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Tu crois que ça sera Macron? Ben non, ouais, ça va pas non. Quoi de Mélenchon, hein? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Ce sera une déception, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a au menu? C'est pour qui la prison? Ah, tu parles, ils y vont jamais. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Il est frais votre saumon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une vraie infection. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Ça commence à faire long là, non? J'ai plus rien moi. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Plus rien sur la partition. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Vous avez ma bénédiction. Ah si, c'est vrai. Ou plutôt ma révolution. Qu'est-ce qu'il y a? Garçon, oh. Qu'est-ce qu'il y a au menu? J'ai rien à tampon. Oui, c'est pour me faire rembourser les frais. Parce qu'avec les impôts, il faut quand même mieux avoir un petit bout de tampon. Sinon, ils vont dire qu'on tape dans la caisse comme les politiques. Et puis nous, ben, c'est direct à prison, hein. Voilà. Et les gars, c'était pas un peu longuet cette chanson, non?
Cuisine politique, Phrasiac. Vous écoutez toujours Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous avons une dernière petite séquence enregistrée lors du même débat à Sainte-Foy-la-Grande à l'occasion des reclusiennes.
Merci beaucoup. Donc Violette Voldoir de Radio Parleur.
Bonsoir. Alors attendez, je vais me rapprocher un peu parce que si je commence à crier... Pas trop. Ah, c'est vrai. Non, je serai bref. C'est l'avantage de parler à la fin. On voit sa parole souvent amputée, mais on a l'avantage d'avoir le dernier mot. Donc ça, c'est pas mal. J'aurais pas pu espérer meilleure transition parce que en fait, je me tiens à côté d'une source. Enfin, on ne s'est pas parlé pour ce papier sur les Prada pour Radio Parleur, mais voilà. Enfin, j'ai entendu exactement ce que tu disais dans la bouche des salariés d'Adoma que j'ai pu interviewer. Il faut savoir en fait que les Prada, ça a une histoire. Alors d'abord, moi, je voudrais vous dire que ça sert quand même à quelque chose de parler de tout ça, parce que souvent sur la question des centres d'accueil, de dénoncer les conditions d'accueil sur des personnes exilées, on se dit bon, en fait, c'est tellement un océan de choses négatives qu'on ne sait pas trop. À un moment donné, on a un peu envie de se pendre, quoi. Mais en fait, ça sert à quelque chose, puisque là, après les différentes enquêtes publiées sur ce système de financement Prada, eh bien, la Maïf a été un peu gênée aux entournures, disons. Ils sont allés, sous la pression de RESF 65, faire une sorte de tournée d'inspection à Séméac, en Occitanie, près de Tarbes. Donc moi, je ne connaissais pas ce Prada. Sous la pression notamment de Jean-Louis Humbert, ils ont été surpris. Voilà, moi, ça ne m'a pas surpris tellement de voir qu'il y avait des enfants de quelques années qui faisaient leurs devoirs dans une chambre avec 6 personnes sur des tablettes. Voilà, des trucs qui sont à peine plus grandes que les tablettes que vous avez dans les avions. Donc la Maïf a été surprise des conditions d'accueil dans les Prada. On est content qu'ils aient été surpris. On ne sait pas trop ce qu'ils feront de cette surprise. Peut-être se retireront-ils de ce financement parce que l'enjeu, il est là. Dénoncer, ça veut dire, in fine, mettre les financeurs face à leurs responsabilités quant au social washing dont ils font preuve quand ils mettent de l'argent dans un financement comme celui-là. Tu l'as très bien dit, c'est un financement qui pose en fait plein de problèmes, puisque l'argent part des poches de l'État. Et en fait, les factures, les loyers sont payés par le ministère de l'Intérieur. C'est le comptable du ministère de l'Intérieur qui signe les chèques pour Adoma. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passe pour... Enfin, c'est le système est comme ça. Donc, finalement, rend l'argent. Enfin, ce pognon est au public. Donc, on a un droit de regard sur ce qui se passe quand même. Voilà, ça pose 4 grands problèmes. Je vais essayer d'être rapide parce que j'aimerais qu'on ait un échange. Je pense que ce sera mieux. Mais pour moi, il y a 4 grands problèmes qui se posent avec ce système de financement qui ne concerne pas seulement l'accueil des demandeurs d'asile, mais qui concerne de plus en plus d'autres champs sociaux, puisque désormais, sachez que le marché de la consommation étant un peu saturé, les financeurs, que font-ils ? Ils se tournent vers des marchés qui sont un peu plus où il y a un peu plus d'opportunités, dirons-nous, et le champ social en fait partie. Donc, ça nous pend au nez. Les 4 enjeux essentiels, c'est d'abord l'enjeu de l'argent public. Cet argent public qui part des poches de l'État, dirons-nous, pour revenir dans celle du privé sous 2 formes. Celle du rendement, tu l'as très bien dit, ce taux plancher à 3,5% par an, qui est garanti par la Caisse des dépôts et consignations. C'est l'argent de vos retraites et de la mienne, peut-être, si j'en ai, c'est pas sûr. Et le deuxième, la deuxième forme, on va dire, de valeur ou d'argent, si on peut dire, parce que l'argent et valeur sont quand même corrélés, c'est le travail gratuit. Le travail gratuit, comment peut-on gagner plein de pognon, surtout en faisant bosser les autres et en les faisant bosser gratos? C'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, ça s'appelle le bénévolat. Voilà, c'est tous les gens investis corps et bien, corps et âme, en mettant, comme j'ai lu parfois, du cœur à l'ouvrage ou du cœur à l'outrage pour faire les choses qui ne sont pas faites. Je pense à tous les gens des collectifs qui vont distribuer des petits déjeuners, distribuer des vêtements aux personnes migrantes, des serviettes hygiéniques, des tampons aux femmes, donner des cours de français, des cours de lecture, des cours d'écriture, faire aussi de l'aide juridique gratuite, bénévole, animer des ateliers, pour faire aussi en sorte que les gens ne deviennent pas fous. C'est bien. Faire des matchs de foot. Toutes ces choses-là, c'est du travail gratuit. Alors, quand on est bénévole dans une association, il se trouve que moi, je suis journaliste, mais j'ai été bénévole aussi au collectif Solidarité Migrants Wilson. En fait, ça prend du temps. Un petit déj, c'est pas on vient, on sert un café, puis on s'en va. C'est 4 heures, en fait, de présence. Il faut organiser les choses, aller acheter le sucre, le café. Voilà. Il se trouve que... tu me diras si c'est effectivement... C'est faux ce que je raconte, mais moi, c'est des témoignages que j'ai eus dans certains Prada. Eh bien, en fait, ce travail est fait par des bénévoles en partie. Et donc, la valeur qui est produite, elle est en partie faite grâce à des bénévoles.
Là-dessus, je confirme effectivement tes propos. Et c'est exactement ce que je disais, c'est qu'en CADA, il y a 10 ans, il y avait des animateurs. On a considéré que c'était des postes qui étaient facultatifs, superflus.
C'est pour le fun, quoi.
Voilà, c'est bon, c'est pas un club de vacances non plus quand même.
Oui, non, faudrait pas qu'on soit heureux quand même. Voilà.
Donc effectivement, de fait, c'est du coup ce travail-là est effectué maintenant par des bénévoles et ça va jusqu'à du véhiculage, enfin du déplacement de demandeurs d'asile, puisque les Formule 1, ils sont toujours en limite de ville, trop paumés. Et donc effectivement, ces missions-là sont assurées par les salariés, mais parfois par des bénévoles aussi, et j'aurais tendance à dire heureusement pour tout le monde, et pour les salariés et pour les résidents, parce que sinon le dispositif ne fonctionne pas.
Et donc, CQFD, ce qui est audité par KPMG, le cabinet d'audit dont tu parlais tout à l'heure, les différents points qui sont listés, c'est tout un tas de choses. Il y a notamment l'accès à des vêtements d'urgence, il y a tout un tas de... C'est un paquet, quoi, de prestations. Si ces prestations sont donc partiellement réalisées par des bénévoles, vous soustrayez le travail bénévole que vous ne payez pas, et puis du coup, le cabinet d'audit, vous croyez qu'il va vraiment vérifier que c'est des bénévoles qui font le boulot ? S'en foutent totalement. Donc, une fois que la prestation est réalisée, les cases sont cochées et le rendement peut tomber dans la poche de l'investisseur. Tout le monde est content. Voilà. Donc, le travail gratuit, ça crée de la valeur qui, en fait, est monétisée. Et il est là, le problème. Dans le champ du travail social, il y a quand même des champs du travail social dans lesquels le financement est public, même si tout ça est compliqué. Mais finalement, il y a un contrat moral quand même. Hein. C'est-à-dire que même si vous êtes bénévole, vous bossez pour une structure, certains sont salariés et vous pas. Bon, globalement, on reste dans le même champ. L'argent circule pour que tout ça fonctionne. À partir du moment où il y a un privé qui vient prendre ça, c'est plus la même affaire. Donc tout ça va s'étendre quand même à d'autres champs du social, je vous le disais. La Société Nationale Immobilière, filiale de la Caisse des dépôts, est en train de monter un fonds exactement de la même nature que le fonds Hémisphère pour le logement social. 2018, c'est là, c'est maintenant. Hein, c'est pas dans 10 ans.
C'était un coup d'essai, hein.
Voilà, on teste toujours sur les migrants et sur les pauvres ce qu'on fait ensuite aux autres. Voilà, donc ça, c'est assez inquiétant, enfin, moi, je trouve. Le deuxième chose qui est un peu inquiétante, c'est que, géographiquement parlant, les Prada sont stratégiquement situés le long des axes routiers et à proximité des aéroports, pour certains. Donc, ils servent essentiellement, et ça, je vous renvoie aux travaux de la CIMAT, qui fait beaucoup de boulot intéressant là-dessus, au fait que ce sont surtout des centres dans lesquels les gens sont assignés à résidence et qui sont en fait des centres de rétention. Je mets deux paires de guillemets parce qu'ils ne portent pas ce nom, mais ce sont des centres de rétention à ciel ouvert dans lesquels les Dublinais sont en attente de transfert, c'est-à-dire d'expulsion. Alors en fait, ils sont mélangés avec plusieurs autres...
Ça dépend des sites,
voilà. Mais sur les sites qui sont notamment à Marseille, à proximité de l'aéroport...
Oui, à Vitrolles,
À Vitrolles, voilà. C'est ce qui se passe. Donc...
Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a des sites où c'est absolument pas le cas et d'autres sites où c'est majoritairement le cas. Et
il y a un peu un mélange des gens.
Mais c'est pas la majorité là-dessus. Voilà, il faut...
Non, c'est aussi, ça. Voilà. Il faut effectivement compenser. Mais voilà, je parlais vraiment de ceux qui étaient à proximité des aéroports. La troisième chose qui est quand même un peu inquiétante, et je vais malheureusement devoir bientôt finir là-dessus, mais... c'est le surcoût pour les finances publiques, les PPP, les partenariats publics-privés, tout le monde sait, non, je ne sais pas si tout le monde sait, ça coûte un pognon de dingue aux finances publiques, de fait, puisque quand vous avez quelqu'un qui paye un loyer, quand vous payez votre loyer, vous êtes aussi dépendant du propriétaire. Voilà. On ne sait pas combien ça va coûter à l'État. Pour l'instant, les chiffres qui nous ont été donnés par le ministère du Logement, c'est que cela fera faire 82 millions d'euros d'économies à l'État sur 10 ans. Voilà. Donc, en fait, en termes d'investissement, peut-être, En termes de surcoûts sur les loyers payés, etc., on n'a aucune visibilité là-dessus. Ça ne fait qu'un an que les Pradas sont mis en place. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que vu le nombre de gens qui se sucrent sur le système, il y a quand même moyen que même le travail gratuit ne suffise pas à compenser complètement les marges que prennent notamment KPMG, qui est le leader français de l'audit. Donc, oui, il y a un problème politique. Et d'ailleurs, politiquement, c'est un peu le souci, et j'en terminerai là-dessus, puisque ces social bounds, qu'on appelle en France contrat à impact social, je vous renvoie aux travaux de Jean-Claude Boual de la CAC, c'est Coordination des associations citoyennes, si mémoire est bonne, qui a publié des très bons textes là-dessus, qui est en train de travailler sur les Pradas en ce moment même, et qui me disait ça. Il disait ça fort justement. C'est politiquement un peu l'angoisse, parce que en fait, c'est propulsé par le politique. En 2014, à l'époque où Emmanuel Macron n'était encore que ministre de l'économie, c'est lui qui a mis en place ça. Voilà. Un peu à bas bruit, il y a eu un ou deux communiqués planqués au fin fond des sites des ministères que je vous souhaite de ne pas trop consulter si vous voulez garder un peu de sérénité. Il faut le faire, mais il faut être de bonne humeur quand même. Les deux mots-clés, c'était innovant et social, pour parler des fameux contrats impact social. Voilà. Il faut être innovant. Innovant, ça veut dire quoi politiquement, en fait ? Le problème, entre guillemets, des migrants, c'est que ça coûte du pognon. Un pognon dingue. C'est comme les pauvres, ça coûte trop de pognon. Et donc, si vous voulez, politiquement, ça a une fonction, ça. Mettre en place les contrats à impact social, mettre en place ce fameux financement hémisphère sur les Pradas, mettre en place des systèmes où on va venir associer le privé dans le champ social, ça permet de dire politiquement, regardez, finalement, le social, ça coûte pas si cher. Ça peut être neutre en termes de coûts. Et si c'est neutre en termes de coûts, du coup, ça devient acceptable. Ce qu'il faut surtout pas dire, c'est que c'est pas neutre en termes de coûts, c'est que ça rapporte. Mais ça rapporte pas aux bonnes personnes. C'est-à-dire que ça rapporte aux investisseurs qui font du social washing avec. Et ça, politiquement, c'est quand même très inquiétant, surtout de voir que c'est enrobé voilà, dans toute une langue de l'esquive qui est celle de la langue de la start-up avec la co-création, l'innovation, etc. Mais que parallèlement, ça s'accompagne d'un mépris absolu pour le travail qui est fait par les associations. D'ailleurs, Patrick Doutreligne vient de démissionner. C'est le président d'Adoma. Et il démissionne pour quelle raison ? Il démissionne parce qu'il est en désaccord avec le discours et la politique menée sur le plan migratoire par Gérard Collomb, dont il dit qu'il a un mépris pour les associations et le travail qu'elles font. Donc il y a deux niveaux de discours, mais voilà ce qui est en train de se mettre en place, voilà gentiment, à la fois dans le champ social de l'accueil des migrants et des personnes exilées de manière générale, et... mais voilà, dans le champ social de manière beaucoup plus importante.
Alors, pour ceux qui n'auraient pas pris l'émission dès le début, je rappelle que vous venez d'écouter un enregistrement que nous avons fait aux Reclusiennes à Sainte-Foy-la-Grande en début juillet de cette année 2018, donc. Et nous allons clore ce débat avec Michel Boutet, putain de maréchal.
Ça se passe à la fin d'une époque, un village au fond du Maroc. Ils avaient pas tout bien compris. Qu'on leur voulait que du bien ma mère, à preuve on avait des prières, qui valaient mieux que les leurs, Paris. Mais eux, c'est mauvaise volonté, et puis tendance à comploter contre la patrie nourricière. Ces gens-là, c'est moins que des bêtes, faut leur enfoncer dans la tête, on verra qui c'est les plus fiers. Alors les avions en rase-motte font tomber mieux qu'à Gravelotte le feu, le fer, la fin du monde. Si bien que quand le soleil se couche, c'est un vrai bonheur pour les mouches. Y'a que des macabées à la ronde. Quand viendra l'heure de Guernica, c'est Franco qui s'en souviendra. Mais en passant, je vous signale que celui qui a inventé ça, c'était un bon soldat François, c'était un putain de maréchal. On le sait depuis Charlemagne, fallait pas inventer l'Allemagne, fallait la laisser dans ses limbes. Mais ça le manie, vieille habitude, on aime cela sauter bien rude et y'en a pas un qui rejeune. On part au front tout étoilé, de rire, de fleurs, de doux baisers, les femmes embrassent leur piou-piou. Mais ceux qui reviennent au village, ils sont finis, ils ont plus d'âge, quand ils sont pas restés dans le trou. C'est tellement une évidence, comme dit monsieur Anatole France, on croit mourir pour la patrie. Mais au petit jour dans le décor, on voit seulement fumer les morts dont c'est bien nourri l'industrie. Et ceux qui s'arrêtent et qui disent il serait temps qu'on fraternise, on les fusille au matin pâle. Chez Satan fera les comptes le chef du peloton de la honte, c'était ce putain de maréchal. La France a une petite santé, le cœur fragile, la rate dilatée, c'est sûr, elle est pas résistante. Alors elle suit son régime, boit de l'eau de Vichy, c'est pas un crime, puis elle s'endort, bien contente. Pendant ce temps-là, des trains saignent, mais ne réveille pas Compiègne, ni Saint-Pierre-des-Corps, ni Mulhouse. Pendant ce temps-là, des bons gars trafiquent du rutabaga en multipliant par pidouze. Hitler tout seul n'existe pas, faut être des millions pour ça, à mettre sa pierre à l'édifice. Mais le vieux soudard à moustache, dans son héroïsme sans tache, est le plus ailé des complices. C'était pour le moins prudent qu'un certain de nos présidents le remette sur son piédestal. Il y a des gerbes de fleurs qui parfois me soulèvent le cœur, comme ce putain de maréchal. Aujourd'hui, au fond de ma baraque, j'entends mon vieux pays qui craque, y a comme une odeur de moisie. Il y a des chiens prêts à mordre, y a des nostalgiques de l'ordre, bavaux nasaux, nouveaux nazis. Mais le pire de tous, c'est les mecs qui, sans vraiment le dire, couche avec, rêve d'une France qui marche ou pas de loi. Font la morale aux mendigos, puis les écrasent comme des mégots. Putain de maréchal, les voilà. Nos enfants, nos doninos, nos innocents, un jour faire la guerre pour des prunes. Des prunes ou quelques monuments, que les marchands soient contents et qu'on chope la peste brune. Faudra se débarrasser de ces clics et s'inventer des pacifiques où on déposera nos mâles. Ces plages où certains jours on aura tant dansé l'amour que ça fera rire les étoiles. sur ces plages où certains jours on aura tant dansé l'amour que ça fera rire les étoiles.